I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les fous du volant, on espère que vous vous êtes régalés le week-end dernier avec ce Grand Prix brésilien. Salut Steph. Alors toi, t'as vu quoi? T'as vu le Grand Prix du Brésil ou t'as vu le Grand Prix de Sao Paulo? Parce que en fait, tu es perdu.
Oui, tout à fait. Parce que en fait, la FIA, enfin, qui se parle un petit peu et qui se met d'accord avec Formula One, le promoteur du championnat du monde. Pour Formula One, c'était le Grand Prix de Sao Paulo, c'était la bonne dénomination gagnée. Et par contre, pour la FIA, c'est toujours le Grand Prix du Brésil. L'appellation a changé depuis l'année dernière.
Bon bref, on était bien devant la même épreuve. C'est bien, oui. George Russell qui a gagné le Grand Prix que tu as vu, toi.
Je te rassure, et le sprint avant aussi, d'accord, le samedi.
Russell, l'avènement et le retour de Mercedes qui a inscrit 58 points sur ce week-end sur les 59 possibles. C'est évidemment par ça qu'on commencera le podcast des fous du volant aujourd'hui. On parlera aussi de Red Bull et de Ferrari qui ont connu un gros passage à vide, des Red Bull en manque de vitesse comme on ne les avait pas vus en subir. Peut-être pour la première fois de la saison, et puis encore quelques troubles d'organisation du côté de chez Ferrari. On parlera aussi des sanctions, grosse activité ce week-end pour les commissaires donc à Sao Paulo, et ça n'a pas toujours été dans une cohérence extrême. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc avec George Russell, le premier God Save the King de l'histoire de la Formule 1. Victoire en course sprint, victoire aussi pour sa première victoire en Grand Prix après avoir résisté en fin de course donc à la pression mise sur lui par Lewis Hamilton après l'intervention de la voiture de sécurité. Cette victoire de George Russell, c'est l'histoire d'un jeune homme arrivé il y a 4 ans chez Williams après avoir enchaîné les titres en GP3 et en F3. Non, c'était en F3 déjà à l'époque.
GP3,
c'est ça.
Chez RT.
GP3 et Formule 2, et qui a fait ses armes ensuite chez Williams en réalisant quelques exploits au passage. On rappellera son remplacement de Lewis Hamilton à Bahreïn, où il se qualifie deuxième. Il mène le Grand Prix devant Valtteri Bottas avant qu'une crevaison ne le prive d'une victoire qui lui tendait les bras. Stéphane, tu disais la semaine dernière que finalement George Russell était devenu le numéro 1 bis de cette équipe Mercedes. Finalement, il est peut-être en train d'asseoir une stature de numéro 1, tout simplement.
Il a signé la pole position, la seule pole position de Mercedes. La seule
cette
victoire,
saison, hein, pas au Brésil.
Voilà,
cette saison.
Tout à fait. La seule victoire de Mercedes cette année. Il reste sur 3 meilleurs tours en course. Ça veut dire qu'il a faim en fin de course. Il joue au gratte-point, là, hein, quand même. Pour se détacher de Lewis Hamilton, pour asseoir son statut, on l'avait dit. Et là, il a 25 points d'avance avant la dernière course. Donc, c'est plié, c'est terminé. Il va finir devant Lewis Hamilton au championnat. La seule possibilité pour Hamilton, c'est de gagner avec le meilleur tour en course sans que Russell ne marque de points. Voilà, c'est ça, ce qu'on ne lui souhaite pas, évidemment. Donc, c'est archi mérité, on va dire. Le premier God Save the Queen, tu l'as dit. God Save the King, pardon.
Ah oui, la force de l'habitude.
Tout à fait, exactement. Et je regardais en fait les statistiques. La Grande-Bretagne a encore gagné un Grand Prix cette année. Et depuis 1953, il y a au moins un Britannique qui gagne tous les ans, à 8 exceptions près. Donc ça veut dire quand même que sur 73 championnats du monde, ils n'ont pas raté beaucoup d'occasions. Donc c'est une présence affirmée. Et c'est la première victoire aussi d'un Britannique qui n'est pas Lewis Hamilton depuis Jenson Button, il y a tout juste 10 ans. C'était à Sao Paulo. Voilà. Parce qu'on ne connaissait que Lewis Hamilton en haut des podiums.
C'est vrai.
Ça change.
Ouais, c'est vrai. Puis c'est aussi une victoire de Mercedes. qu'on attendait, hein, évidemment, cette saison. Mercedes qui avait donc engagé ce principe aérodynamique avec cette W13 quasiment sans pontons latéraux. On a dit voiture mal née, voiture impossible finalement à faire gagner. On a le sentiment que Mercedes a fait gagner un principe qui n'était pas destiné en fait à gagner en Grand Prix.
Oui, alors en fait, je ne sais pas ce qu'ils vont décider maintenant pour l'année prochaine, parce que j'ai regardé
ces
pontons zéro, j'ai dit, mais finalement, ils les ont fait marcher, c'est incroyable. On reste sur deux Grands Prix quand même, deux superbes performances, parce que Lewis Hamilton, ça fait trois fois de suite quand même aussi qu'il termine deuxième. Ouais. À Mexico, on avait expliqué, altitude oblige, 2200 mètres, il y avait moins de, l'air était moins dense, donc moins ça avantageait, voilà, moins de traînée sur les Mercedes. Alors, à Sao Paulo, c'est la deuxième altitude la plus élevée du championnat du monde, 800 mètres, c'est pas rien quand même, ça joue un petit peu, ça a peut-être aidé aussi. On n'était pas très optimiste chez Mercedes, mais les autres sont passés à côté, je dirais, ils ont bien fait le job. Et puis, il y a eu quand même quelques circonstances, des petits coups de pouce. En qualif, en Q3, Russell signe le troisième temps. Et puis, malencontreusement, il y a un bac à gravier qui traverse la piste. Il ne s'en sort pas.
Drapeau rouge. Il y retourne, parce qu'il en était sorti, voilà, et il y retournait.
Tout à fait. Et puis, on arrête là. Et là, ça valide sa troisième place sur la grille. Victoire en course sprint limpide. On a peut-être eu la plus belle course sprint des six oui. depuis la création. Parce qu'on avait une grille sans dessus-dessous, de toute façon aussi. Donc,
avec la pole de Magnussen, c'est sûr que c'était comme une sorte de grille inversée, en fait, sans vouloir
être méchant. Oui, mais si tu l'inversais, tu avais mis Schumacher en pole position. Oui. Ils avaient tout prévu là, chez As.
On aurait pu faire un sujet...
Les bienfaits de la grille inversée, là, franchement.
On aurait pu faire un sujet sur, justement, cette course sprint. Est-ce qu'elle ne valide pas le concept? On sait que Stéphane, il n'aime pas du tout le concept de course sprint. D'ailleurs, ils sont beaucoup dans le peloton à totalement dénigrer ce format-là. Il faut bien reconnaître qu'on a eu deux belles courses, deux courses animées. Et puis, cette victoire de Mercedes, puisque c'est le sujet, quand même, avec deux configurations aéro qui étaient assez différentes sur les deux autos. Quelque part, là où Mercedes avait mal géré au Mexique, alors qu'on sentait qu'ils avaient vraiment une possibilité de gagner, là, on a le sentiment qu'ils avaient deux concepts aéro qu'ils pensaient pouvoir faire gagner. Donc, ils ont mis leurs œufs dans deux paniers différents. À la fin, les deux auraient pu gagner parce que Lewis Hamilton termine deuxième. Alors, il termine deuxième sur les talons de George Russell parce qu'il y a eu l'intervention de la voiture de sécurité. Mais Lewis Hamilton, il a quand même été victime d'un accrochage. Alors, victime ou co-auteur, parce que je n'ai pas tout à fait la même lecture que tout le monde sur l'accrochage avec Max Verstappen. Mais en tout cas, ça lui a fait perdre du temps. Et il a quand même terminé à la deuxième place. Vraiment, là, chez Mercedes, bah, on a fait un week-end comme on n'en avait pas vu cette saison. La preuve, c'est la première victoire. Et comme on en avait vu certains l'année dernière, où on se disait vraiment, il y a une maestria, il y a une force d'ingénierie, de réflexion, de gestion chez Mercedes, on ne l'avait pas vu en 2022.
Oui, alors la situation s'est quand même renversée, parce que vendredi, ils ne sont pas fiers. Hein. À la fin de la Q3, Russell est troisième dans les graviers, mais Hamilton est combien, septième ou huitième, parce qu'ils se sont plantés aussi. Et là, on se dit, mais Hamilton, cette année, il a un mauvais karma, il n'y a rien à faire, il n'est pas dans les bons coups, il n'arrive pas à se trouver dans une situation où c'est pour lui. Bon, et puis là, effectivement, aussi sur ce premier virage avec Verstappen, on y reviendra. Ce qui fait que s'ils avaient prévu des stratégies un petit peu différentes, Hamilton qui était retardé, je crois que ça a poussé quand même un petit peu Mercedes à jouer la sécurité alors qu'ils auraient peut-être voulu prendre des risques. Ils avaient peut-être splitté les stratégies, on ne le saura jamais, ou à moins qu'ils ne le disent, mais. En fait, là où j'étais surpris, c'est que Russell mène juste avant la première vague d'arrêt au stand. Il a 3 secondes 7 d'avance sur Pérez. Et là, si Pérez rentre, tu ne réagis pas. Tu dis, on est en tête, on fait notre course, point. Surtout que Russell venait de leur dire, moi, en pneu, je suis bien, on continue comme ça. Et en fait, ils ont dû jouer la sécurité parce qu'on ne savait pas ce qui allait devenir Hamilton. On ne connaissait pas la nature des dégâts ou ce que ça allait donner sur la distance d'un Grand Prix. Donc, ils l'ont toujours mis sur une fenêtre, enfin, sur un plan de stratégie assez logique. Ils ne se sont pas perdus, on va dire, là-dedans, comme ils peuvent le faire parfois. Et ça a payé, tout simplement.
Je ne vois pas tout à fait la chose de la même manière. Je crois que c'est là qu'on voit quand même que Mercedes a perdu de la confiance qu'elle avait en elle-même ces dernières saisons.
Oui, mais tu es obligé parce
et à
que
juste titre.
Là, l'effet de l'undercut, on ne le connaissait pas encore.
Il est très fort au Brésil.
Voilà, c'est ça. On ne le connaissait pas à l'époque. Enfin, à cet instant-là, 3 secondes 7, ça veut dire que sur 2 secondes d'undercut, plus un peu de trafic au retour en piste, bah, tout de suite, tu te retrouves à challenger par le deuxième.
Et c'est Pérez qui a eu le trafic.
Voilà, tout à fait.
C'est d'ailleurs étonnant. On y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard dans le podcast. Mais Pérez qui fait son arrêt au stand, qui se retrouve complètement pris dans le trafic. Normalement, ça, les équipes, elles savent le gérer. Elles savent exactement où ressort un pilote parce qu'il n'y a pas eu de problème particulier chez Pérez. On va essayer de faire les choses dans l'ordre, mais ça fait partie des erreurs assez inhabituelles qu'on a vues ce week-end chez Red Bull. On va anticiper un petit peu. Et d'ailleurs, Toto Wolff, qui n'était pas au Brésil, parce qu'il avait expliqué qu'il ferait l'impasse sur certains Grands Prix. Je ne sais pas d'ailleurs s'il n'a pas regretté de ne pas être allé à Sao Paulo le week-end dernier. Il a quand même déjà commencé à anticiper en disant quelque chose de très très important. Il parle de deux pilotes alpha dans son équipe. C'est pour ça qu'on parle de pilote numéro 1, pilote numéro 1 bis, parce que tu ne peux pas t'appeler Lewis Hamilton et être pilote numéro 2. Il y a une citation quand même de Toto Wolff qui est très très intéressante, Stéphane.
Ça commence par ce que tu dis. Ce sont des pilotes alpha. C'est une bonne chose car nous ne voulons pas de chiots dans la voiture, mais nous allons devoir gérer cela du mieux que nous pouvons. Hamilton et Russell ont un niveau similaire. Point. Voilà. Là, c'est posé, c'est clair.
Ça ne doit pas faire très plaisir quand même à Lewis Hamilton, qui est septuple champion du monde. Et finalement, son coéquipier gagne un Grand Prix. Je vous rappelle que Lewis Hamilton, il en a 103 des victoires. Et bien, 103 à 1. C'est la même chose, c'est niveau
oui.
Similaire.
Ah bah maintenant, oui, tout à fait.
Bah oui, bah là quand même peut-être pas tout à fait, mais Toto Wolff, il est déjà dans l'après. Parce que maintenant, il se dit, je décrypte, là je fais de la psychologie à 2 euros. Toto Wolff, il est chez lui et il se dit, bon alors maintenant, soit on réussit la voiture l'année prochaine, soit on ne réussit pas la voiture l'année prochaine. Et en gros, je vais me faire virer parce qu'on ne peut pas louper une voiture deux fois de suite chez Mercedes. Soit je réussis la voiture l'année prochaine et je me retrouve avec un duel entre Lewis Hamilton et George Russell pour le titre mondial.
Ouais, ça lui manque, franchement. Donc, il est prêt à y retourner, c'est clair. Alors moi, ce qui m'a plu aussi, quand je m'attendais à ce que tu dis, c'est une victoire de Mercedes. Je te dis, ah, c'est une victoire de la filière Mercedes. Parce qu'il y avait quelque chose d'émouvant, cette remontée de toutes ces émotions, ce souvenir. C'est pour ça qu'on aime les nouveaux vainqueurs, c'est qu'ils savent d'où ils viennent, ils savent par quoi ils sont passés. Donc il a évoqué le soutien de sa famille, de ses proches, et puis de Gwen Lagru, qui est un Français, qui est le talent scout en fait, de Mercedes, qui a commencé un petit peu à être en contact avec Toto Wolff sur la filière Gravity autour d'Esteban Ocon, et c'est pour ça qu'Esteban Ocon appartient toujours, on va dire, un petit peu en troisième couche là, à l'univers Mercedes, même s'il est sous contrat Alpine. Mais c'est Gwen Lagru qui a pris en charge la filière de jeunes pilotes Mercedes en 2016, et il dit, la première chose que j'ai faite, c'est engager George Russell, qui était en train de prendre la direction du DTM. C'est-à-dire que sa carrière était un petit peu, après une saison moyenne en Formule 3, qui était en train de s'enliser. Il avait surtout un manque d'argent, clairement, parce que c'est le nerf de la guerre. Et il l'a rattrapé juste avant que il disparaisse un petit peu dans...
Des radars de la Formule 1.
Des radars de la Formule 1, tout à fait. Talentueux. Et puis là, après, il y a eu une autre bonne décision, c'est le confier aux équipes de Fred Vasseur, ART, en GP3 et puis en GP2, et puis là carton total, formation chez Williams de 3 ans, la classique, et puis après chez Mercedes le parcours parfait. Mais il a une reconnaissance de d'où il vient, et c'est quelque chose qui moi je trouve qu'il faut souligner, parce que on le sent très très authentique. Il n'a pas fait de polémique cette année, il fait pas d'histoire. T'as vu comment est-ce qu'il s'est installé ? C'est formidable. Alors qu'il y a quand même des étincelles dans d'autres écuries.
Oh oui, voilà. Voilà, surtout au Brésil, mais on va en parler un peu plus tard. Mais non, c'est clair, c'est une histoire avec un garçon qui est poli, bien élevé, il a une belle gueule. Et il a fait ses classes effectivement dans une équipe qui était en difficulté, qui est toujours en difficulté chez Williams. C'est vraiment là, avec Lewis Hamilton, on a vraiment la thèse et l'antithèse. Je suis pas en train de vous dire que Lewis Hamilton est mal élevé et qu'il est moche, pas du tout. Mais Lewis Hamilton, il est arrivé, c'était déjà une vedette. Il est allé directement chez McLaren. Bon, on va pas repasser l'épisode avec Fernando Alonso, mais justement, George Russell, il a un peu un parcours à la Fernando Alonso, quoi. Alonso, il est arrivé chez Minardi quand il est arrivé en Formule 1. La voiture, c'était limite pas une Formule 1, quoi. Et il a montré quand même avec cette auto qu'il arrivait à faire des chronos intéressants. Et vous savez, les informations, elles diffusent dans le paddock. Les ingénieurs, quand ils voient les datas, alors à l'époque de l'arrivée d'Alonso, on n'avait pas encore autant de datas, mais on commençait déjà à en avoir. Et puis les ingénieurs, surtout, ils voient que, oh là là, dis donc, le petit espagnol, là, avec la Minardi qui avance pas, il l'a fait cravacher et il arrive à faire des chronos qui sont finalement pas si mal que ça. George Russell, ça a été ça très très vite. On s'est aperçu que c'était un vainqueur potentiel de Grand Prix. On peut même dire un champion du monde en puissance, parce que ce garçon-là, il n'y a rien qui peut limiter ses ambitions quand on le voit. Donc c'est l'aboutissement d'une belle histoire. On est aussi heureux de voir que Mercedes, après avoir traversé vraiment un désert, retrouve enfin le chemin du succès, parce qu'ils auraient très bien pu lâcher l'affaire en disant « Bon, on fait plus rien cette saison, on refait une voiture et l'année prochaine, on sera là. » Non, ils ont... Je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait particulièrement plaisir à Mercedes, c'est de dire « Ok, on s'est planté, mais on a quand même travaillé toute cette saison pour faire gagner au moins une fois cette voiture. » Maintenant, on attend l'année prochaine.
Sachant que le travail apparemment n'a pas consisté à mettre des pièces pour mettre des pièces, c'était comprendre le phénomène, ce qui se passait sous la voiture, ce fameux marsouinage, comment est-ce qu'il se déclenche. Adrian Newey a dit qu'il était surpris que les autres n'avaient pas anticipé ce phénomène-là, ouais, que lui avait intégré tout de suite dans le design de la Red Bull de cette année. Bon.
Mais c'est peut-être aussi pour ça que la Red Bull a été championne du monde des constructeurs cette saison. Bref, voilà une belle histoire pour conclure ce Grand Prix du Brésil. On anticipe un tout petit peu, on nous dit « Ah bah oui, mais maintenant à Abu Dhabi, les Mercedes, elles vont être irrésistibles. » On prend un risque, Stéphane, on s'engage, puisque ça, c'est pas préparé. Mais je vais vous dire, non, j'y crois pas du tout, parce que Abu Dhabi, c'est au niveau de la mer, et tu l'as mentionné, c'est l'altitude qui avait vraiment permis à Mercedes d'être en position de gagner au Mexique. Ils n'ont pas saisi l'opportunité. On était encore un petit peu haut en altitude du côté de Interlagos. Ça sera pas le cas à Abu Dhabi.
Non, puis là, il y a des portions de ligne droite quand même qui devraient remettre sur le devant de la scène Red Bull, je pense, et Ferrari moins, c'est sûr. Ils seront peut-être dans le match avec Ferrari, mais je pense que Red Bull devrait être inaccessible à Abu Dhabi. Bon, j'espère me tromper, parce que on aimerait peut-être tous une victoire de Lewis Hamilton qui permettrait de terminer l'histoire de cette saison avec deux vainqueurs chez Ferrari, deux chez Red Bull et deux chez Mercedes. Tout le monde serait un petit peu content et puis ça nous vendrait la saison 2023.
Le bilan de Mercedes cette saison, c'est donc pour l'instant, enfin sur ce week-end, le week-end dernier, 58 points inscrits sur 59 possible. Il n'y a que Red Bull qui avait réussi à faire ça en Émilie-Romagne cette saison. Et ça permet à Mercedes de revenir à 19 points de Ferrari au classement des constructeurs. C'est là-dessus en fait que je voulais en venir. Est-ce que Mercedes sur la lancée peut aller chercher cette deuxième place? Ça me paraît difficile. 19 points à reprendre. Là, on en a marqué 58 parce que faut garder en mémoire qu'il y avait la course sprint à Interlagos. Il n'y aura pas du tout ça à Abu Dhabi. Je pense que Ferrari va résister tout juste.
Oui, je pense que ça va passer quand même pour Ferrari. Si les deux voitures sont arrivées, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut se focaliser, à la Scuderia.
Alors, justement, on va parler de la Scuderia Ferrari et de Red Bull dans le même bloc, c'est-à-dire les deux top teams depuis le début de la saison, alors là, qui se sont un petit peu perdus. Hein. On est tombé entre deux eaux à Interlagos. Ferrari qui a commencé la qualification, la Q1, où on se retrouve avec des Ferrari, des pneus dans tous les sens et des mécanos qui ne savent plus quel pneu prendre pour mettre sur quelle voiture. C'était assez incroyable. On passera l'épisode de la Q3 où on se retrouve avec toutes les voitures à la sortie de la voie des stands. Évidemment, toutes les voitures sont en pneus slick, sauf une. Devinez laquelle, celle de Charles Leclerc, qui, voilà. qui est en intermédiaire et qui dit, dites les gars, je suis le seul en inter là. Oui. Ok, merci. Ils n'ont pas eu de chance sur ce
coup-là. Alors, ils n'ont pas eu de chance. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'ils doivent connaître, la position de la voiture sur la piste. Et savoir jusqu'à quel moment, limite, appeler le pilote pour que l'ordre passe et qu'il puisse prendre la voie des stands.
Et ça fait quand même plusieurs fois. C'était entre Q2 et Q3. Hein.
Oui, mais ça fait plusieurs fois dans, cette saison.
Oui, où il l'appelle trop tard.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Qu'il l'appelle trop tard. Donc, on se dit qu'il y a encore des questions d'organisation, de process qui sont quand même archi connus. Enfin, et ça tombe toujours sur eux. Bon,
donc, ils n'ont peut-être pas une bonne connexion Internet et du coup, le mapping qui leur dit où les voitures sont, il est en retard en fait.
Mais, oui, mais là, quand même, le delta, c'était 3-4 secondes. Ça commence à faire beaucoup. 1 à 2 secondes encore. Ça arrive sur certains circuits. Hein. Les positions GPS sont parfois compliquées, surtout en ville. Mais là ils retombent dedans. Bon, ils s'en sortent bien quand même. Hein.
Oui, oui.
Franchement, je regardais le classement à la mi-Grand Prix. Je me disais, mais ils ne vont plus avoir que 8 points d'avance sur Mercedes parce que Sainz était 3e, je crois, et puis Leclerc était 15e ou 16e.
Ah oui, enfin, faut dire que Charles Leclerc commence la course par se faire percuter par Lando Norris. L'impact en lui-même n'est pas très important. Par contre, quand il va taper le mur de pneus, moi honnêtement, quand j'ai vu la voiture.
Ah ben moi je prends mes notes, je dis bon, hop, abandon. Et puis à un moment, je le vois en piste comme ça, je dis il est là, qu'est-ce qu'il fait là? Il est reparti.
Mais lui aussi, d'ailleurs, il l'a dit, hein, qu'il pensait que c'était terminé.
Ah, c'est incroyable. Bon, tant mieux.
Ils font du solide quand même chez Ferrari.
C'est vrai qu'ils n'ont pas toujours eu cette réputation-là de solidité, ça change. Mais au bout du compte, ils sont 3e et 4e avec quand même un petit peu pas des frictions, mais des étincelles, une incompréhension. Et ce que j'aime bien quand même chez Charles Leclerc, c'est qu'il nous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'ils se sont floués. Et il dit toujours la même chose. Je vais me retourner vers l'équipe, on va en discuter, on va me donner tous les éléments et je vais comprendre.
Et là, on a compris pour le coup. Alors, on vous explique. Carlos Sainz a terminé 3e devant Charles Leclerc. Charles Leclerc qui est en ce moment à la bagarre pour la 2e place du championnat avec Sergio Pérez. La logique d'équipe aurait voulu que Carlos Sainz laisse la place à Charles Leclerc pour cette 3e position, prendre quelques points de plus. Charles Leclerc, finalement, il est exactement à égalité de points avec Sergio Pérez après ce Grand Prix du Brésil. Il l'a demandé à la radio, ça ne s'est pas fait. Donc là, évidemment, sur le coup, tout le monde se dit « Ah bah ça y est, les consignes ne sont pas respectées ». Et il y a eu une explication de Mattia Binotto. Et cette explication, va vous le dire, voilà, elle tient parfaitement la route. Non mais on critique souvent un petit peu le manque de clarté. Parfois, on sent qu'on fait un peu non-sincérité, pour employer un terme que j'entends parfois qui me fait beaucoup rire. Là, l'explication, elle est valable. On t'écoute, Stéphane.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a pendant la neutralisation, Sainz qui, par mégarde, je ne sais pas, double le retardataire Tsunoda qui atteint un tour qui n'a rien à faire là. Et,
mais warning, on l'a laissé là quand même, d'ailleurs, au passage, on ne sait pas
warning
pourquoi.
Warning de la direction de course, enquête. Et là, il y a une pénalité de 5 secondes. En tous les cas, on ne la matérialise pas, on ne dit pas à la Scuderia que ça peut être 5 secondes, mais Binotto
anticipe la possibilité de...
Voilà, c'est ça. Et là, il y a un problème, c'est qu'on risque 5 secondes de pénalité. Et de fait, il fallait demander à Sainz de rétrograder, de ralentir pour attendre Leclerc pour faire l'inversion. Alors, il y avait un autre risque, c'était Alonso qui était 1 seconde derrière Leclerc et qui était bien énervé.
Alonso, quoi. Voilà.
Et... donc, il y avait un risque, en fait, d'apprendre à l'arrivée qu'il y avait 5 secondes qui tombaient sur Sainz. Et là, pour le coup, s'il terminait juste derrière Leclerc, ça le faisait tomber à la 7e place derrière Pérez. Donc, au championnat constructeur, c'était une catastrophe. Mmh. Il a dit, c'était mieux de laisser comme ça pour le championnat constructeur. Moi, ce que je comprends... Alors, juste, simplement, apparemment, il a quand même eu un propos verbal de la direction de course ou par un canal officiel, comme quoi l'enquête sur Sainz ne donnerait pas lieu à une pénalité, mais il a dit on n'avait pas de confirmation. Donc ils ont joué à la sécurité. On sent un petit peu qu'on a peur, qu'on ne veut pas te faire d'erreur. Et c'est vrai que c'est celui qui fera l'erreur qui terminera troisième du championnat. Donc ça, c'est ce qu'ils ne veulent plus risquer, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et il a dit quand même qu'ils ont appelé Sainz. Alors je crois que Sainz a dit non, je n'ai pas été prévenu. Mais Binotto dit Sainz était prêt à laisser sa place et inverser des positions si nécessaire. Voilà.
Ça avait même apparemment été anticipé avant le début de la course. Hein. C'est ce que
tout
Charles
à fait.
Leclerc
mais quand expliqué. On est dans une situation de peloton ou en tous les cas de challenger qui sont juste derrière, il y a un vrai risque, surtout quand il s'appelle Alonso. Mais moi, pour revenir un petit peu à ça, je trouve que des consignes comme ça pour inverser des positions sur l'avant-dernier Grand Prix, je trouve ça un peu too much. Qu'on le fasse au dernier Grand Prix, on jette tout dans la bataille, toutes les forces, ok, pas de problème. Et là, le dernier, alors après, on peut imaginer qu'il y a trois Grands Prix de la fin aussi, on fasse ça, enfin, on s'en sort plus. Bon, et puis après, c'est demander à Sainz de lâcher un podium quand même. C'est pas rien. Mmh. Avec un podium, ça te fait exister. Hein. C'est-à-dire que tu es dans le top 3, tu participes à la cérémonie, on te voit toi, tu fais des interviews.
Tu es en conférence de presse.
Bien sûr. Bien
c'est
sûr.
Pas la même chose donc, pour le pilote, c'est sûr.
Voilà, tout à fait. Donc ça. C'est une importance. Et pour conclure, Binotto a dit c'est bien plus intéressant ce qui s'est passé chez Red Bull.
Eh ben écoute, tu me fais une transition toute trouvée, Stéphane. Passons chez Red Bull, dont les deux autos donc, ont terminé 6e et 7e. C'est la première fois depuis l'ouverture de la saison à Bahreïn qu'il n'y a pas de Red Bull sur le podium à l'arrivée d'un Grand Prix. Max Verstappen a terminé 6e, donc je le disais. Sergio Pérez, 7e. Et dès la course sprint, d'ailleurs, on a senti hein, que les Red Bull ne fonctionnaient pas comme d'habitude. Moi, sur la grille de départ de la course sprint, je vois Max Verstappen en pneu médium et je me dis, ça confirme totalement ce qu'on s'est dit dans Les Fous du Volant. Je te jure que vraiment, ce podcast, il m'embête même chez moi quand je regarde tranquillement la télé. Parce que, en fait, ça validait ce qu'on avait dit à plusieurs reprises, c'est que Red Bull était capable de faire fonctionner sa voiture aussi bien, si ce n'est mieux, que ses adversaires en utilisant une gamme de pneus plus dure que les adversaires et que c'était la quadrature du cercle et qu'ils étaient imbattables dans cette configuration-là. Sauf que, bah là, pour ce coup-là, ça n'a pas marché et les médiums ne marchaient pas sur la Red Bull. Mais très vite, dans cette course sprint, on se rend compte aussi que les pneus tendres, ils ne marchent pas mieux non plus sur la Red Bull. Et là, on se dit, oulala, mais le week-end, il va être bien plus compliqué que prévu pour Max Verstappen, dont on vous rappelle le challenge, c'était de remporter les deux derniers Grands Prix pour battre le ratio de victoire de Michael Schumacher. Et ça s'est confirmé en course. Les Red Bull, elles n'avaient pas de rythme.
Ah mais dès le samedi soir, après la course sprint, Verstappen dit on n'est pas bien en médium ni en tendre.
Ouais.
Et les Mercedes sont devant, elles sont intouchables. Mmh, terminé, fin de l'histoire. Alors moi, ce qui m'étonne aussi un petit peu, c'est qu'ils n'étaient pas bien en pneus. Et souviens-toi, Gilles, quand même, on nous avait dit que l'architecture du V6 Honda était propre à mieux fonctionner. Elle avait un avantage en altitude. Donc, ça s'est vu à Mexico, victoire nette et sans bavure, troisième place. On l'a dit, Sao Paulo, c'était à 800 mètres, et ça joue. Hein.
Pour
les motoristes, clairement, quand on leur demande, ça a une influence, je dirais. Donc, il y avait un petit plus de ce côté-là, mais ça a largement pas suffi. C'est évident, quand il a passé les tendres, il a pas pu remonter ni rien faire. Alors, après, il y a eu cet incident avec Hamilton qui a complètement gâché ses chances.
La pénalité
Checo
aussi.
Pérez n'était pas dans le coup du tout parce qu'il était sur la mauvaise stratégie. Bon, là, c'était un loupé, le premier de l'année, c'est vrai.
Alors, je pense que c'est pas du tout. De toute façon, ça peut pas être la conception de la monoplace. Elle a gagné là les 9 grands prix précédents. Elle peut pas d'un seul coup être devenue mauvaise. Je pense que, en fait, on s'est trompé dans l'anticipation des conditions météo chez Red Bull parce que comme vous le savez probablement, ou ceux qui ne le savent pas, on va vous en parler. Les réglages sont déterminés avant le début des qualifications. Une fois que les qualifications débutent, vous ne touchez plus aux réglages de l'auto, sur les suspensions, sur des choses comme ça. Donc là, il faut anticiper ce qui va se passer le lendemain. Et je pense que chez Red Bull, on n'avait pas du tout anticipé des conditions météorologiques, des conditions de course, comme elles l'étaient le dimanche, et que les pilotes savaient, en fait, au départ, que leur voiture n'était pas faite pour le Grand Prix qu'ils allaient affronter. Ce qui explique peut-être aussi cette prise de risque très importante de Max Verstappen en début de course face à Lewis Hamilton. Et puis donc, il y a eu, pour conclure, durant ces derniers tours, ce mélodrame entre Sergio Pérez et Max Verstappen. Donc, je précise.
Mélodrame plus pour Pérez que pour Verstappen. C'est sûr. Tout de suite.
je résume. Sergio Pérez est en 7e position. Il est donc à la bagarre avec Charles Leclerc pour la 2e place du championnat. Et il dit j'ai besoin des points. Qu'on dise à Max Verstappen de me laisser passer. Et ça ne s'est jamais fait.
Oui, il envoie une punchline assez sévère quand même. Verstappen le répond quand même avec un aplomb formidable à la radio. Les gars, vous ne me demandez plus ça, ok ? J'aime bien le ok, ouais. Là, quand même, franchement. Est-ce que c'est clair ? Voilà, il en met une couche. J'ai donné mes raisons et je reste sur ma position. C'est-à-dire qu'il ne veut pas entendre parler d'une consigne d'équipe. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Parce que, logiquement, Pérez le laisse passer, il doit redonner sa position. Voilà. Alors, Marco a expliqué quelque chose que je trouve un petit peu alambiqué quand même aussi. Il dit, le plan était pour Max de doubler Alonso et Leclerc, ce qui aurait privé Leclerc de points dans l'optique du championnat pilote. D'accord, mais une fois que Verstappen est devant Alonso et Leclerc, si lui-même Pérez ne peut pas les passer, c'est fini, il ne peut pas prendre la place. Voilà. Donc c'était un traquenard, ça ne peut pas être autrement.
Ouais, voilà.
Et ça c'est jamais arrivé. Alors il est resté derrière Alonso, mais effectivement, le pompon, c'est qu'il n'a jamais voulu entendre parler. Et on sait que le garçon est un petit peu rancunier quand même, et il y a des choses qui étaient sous-jacentes en conférence de presse, où il n'a pas nommé les choses clairement, mais il y a un Grand Prix de Monaco qui est en question, et il n'a pas encaissé la fin de la qualif à Monaco, oui, en Q3. Pérez détient la pole position, et il se sort, il tape quand même au virage du portier à l'entrée du tunnel. Juste derrière, Sainz est prévenu trop tard, il arrive dessus, il donne un coup de patin, il part en tête à queue, il le rentre dedans.
Et ça empêche Verstappen d'améliorer.
Alors, ça empêche Verstappen d'améliorer, mais Verstappen qui n'existe pas depuis le début du week-end, qui est quatrième, qui sature, qui n'a pas les bons réglages et qui n'y arrive pas, mais qui considère quand même que on l'a privé d'une chance, ce qui est normal, comprends bien.
Oui, mais alors, qu'on soit bien clair, il n'y a pas de Monaco Gate, on ne soupçonne pas Sergio Pérez d'avoir fait exprès, parce que de toute façon...
Non, mais vu les dégâts, Red Bull a la chance de réparer, d'être sur la grille, parce que 2019, Leclerc,
oui,
il est en pole position, il tape, il fait des dégâts, il ne prend pas le départ de la course.
Non, la boîte de vitesse est
en vrai risque. Il y avait un vrai risque que Checo Pérez soit refoulé en fond de grille, parce qu'ils avaient, cassé le couvre-feu et puis changé les pièces.
Je pense que c'est important de le signaler, en fait. Max Verstappen, en fait, en veut à Sergio Pérez d'avoir fait cette erreur. Alors après, qu'il laisse sous-entendre que Sergio Pérez a fait exprès, ça le regarde lui, quelque part.
Et puis, c'est pas réaliste.
Ça paraît pas réaliste du tout, d'abord par l'importance des dégâts qu'il y avait sur la Red Bull, et puis parce que vous imaginez bien, et je pense que maintenant les constructeurs le savent, on a les moyens techniques de savoir si un pilote a fait exprès de se mettre dans le mur, dans le mur ou pas. Hein. Demandez à Nelson Piquet Jr., il va vous l'expliquer. Donc, on n'a pas joué du tout avec ça, je pense pas, mais Max Verstappen en veut à Sergio Pérez pour ça, ou alors il utilise ce prétexte pour ne pas respecter les consignes quand elles sont pas à son avantage. Et je pense que c'est cette version-là qui est la plus proche de la vérité. Après, quand vous êtes dans la situation de Max Verstappen, que vous êtes double champion du monde, que cette équipe, de toute façon, vous savez qu'elle repose sur vous. Si demain, Max Verstappen dit « Je ne veux plus rouler pour Red Bull, qui veut de moi ?» Mais attendez, bougez pas, toutes les portes vont s'ouvrir. Et dans ce cas-là, vous pouvez dire « Non, moi, les consignes d'équipe, je ne veux qu'elles ne soient que dans mon sens. » C'est valable tant que vous êtes le meilleur de loin. Le jour où vous ne l'êtes plus, ça s'arrête et ça sera terminé pour Max Verstappen. Voilà donc l'ambiance. On attend de voir comment ça va se passer à Abu Dhabi.
Il y a eu réunion quand même, avant même qu'il passe devant la presse, parce qu'il était attendu en zone mixte et pour s'exprimer. Et en fait, il était en réunion coordonnée par Helmut Marko, parce que ça, c'est sa partie quand même.
Et là, il y avait la petite musique du parrain derrière. Vas-y, parle. Vas-y.
Et ils se sont mis d'accord. Verstappen a dit je promets d'aider.
T'arrives pas du tout.
Attends, on n'a jamais testé ça, mais non, la musique, c'est fini là, on peut pas. Il a dit qu'il avait promis d'aider Checo à Abu Dhabi pour arracher la deuxième place au championnat. Mais comment est-ce qu'il va le faire ? Lui, son objectif, c'est de gagner. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? À part lui filer un coup d'aspi en qualif. Et puis là, Checo Pérez, un an après, pourra peut-être dire « Max est une légende ». Là, pour le coup, ce qui sera vrai. Voilà.
On aura donc bouclé la boucle, tu crois ?
Tout à fait. Mais la question, c'est Pérez était assez énervé. Tout dépend un petit peu s'ils vont se rabibocher ou pas de l'issue du championnat. Mais Pérez, il est sous contrat en 2023 et 2024, mais il n'a pas de marge de manœuvre, rien. Voilà.
Mais oui,
c'est ça le problème, parce que s'il se rebelle, je ne donne pas cher de son avenir chez Red Bull. Et comme tu l'as dit un petit peu, Verstappen, c'est le pilote alpha chez Red Bull, je pense que Pérez n'a pas envie de devenir le pilote AlphaTauri.
Ben, oui, mais
si tu vois ce que je veux dire, parce que ça peut mal tourner.
Il y a beaucoup d'articles qui circulent sur le net là-dessus et qui voilà, laissent un petit peu. C'est pour ça la précision qu'on voulait faire là sur le fait qu'il n'y a pas de Monaco Gate pour Sergio Pérez. Je trouve que là, il y a certains sites qui jouent un peu sur les mots. C'est pas très très honnête.
Non, mais il y a quelque chose assez marrant.
Mais
attends,
je termine. Je vais jusqu'au bout. Il y a quand même des amateurs de Formule 1 qui ont très très bien résumé la situation et qui disent de toute façon, Pérez, il a deux choix. Soit il accepte son statut de numéro 2 et de laisser passer Verstappen quand on lui demande, et il y aura pas de retour. Il y aura pas de retour pour lui. Soit effectivement, il va chez AlphaTauri.
Tout à fait. Alors, petit indice. Quand même, enfin petit indice, je ne sais pas si c'est vraiment un indice, mais apparemment Daniel Ricciardo, c'est la rumeur depuis quelques semaines, retournerait chez Red Bull pour être pilote de réserve, histoire de mettre un petit peu un coup de pression sur Checo Pérez, parce que c'est pas Tsunoda qui va la mettre,
non,
et c'est pas De Vries non plus. Donc là, tu vois, c'est ils assurent peut-être leurs arrières, 2 ans de contrat par rapport à Pérez qui a eu un énorme trou d'air en milieu d'année.
Ouais.
Ça veut dire qu'on n'est pas sûr, on regrette peut-être de l'avoir signé pour 2 ans. Et puis, quand on signe un pilote comme ça pour 2 ans, il se sent moins sous pression. Bon.
On verra cela. Mais bon, comme quoi, c'est vrai que là, pendant que Mercedes était sous sa bonne étoile, hein, sans vouloir faire de jeu de mots, derrière, chez Ferrari et chez Red Bull, on a mangé son pain noir. Et ça a donc permis cette victoire de George Russell. Le troisième point qu'on voulait évoquer dans les fous du volant post-Grand Prix de Sao Paulo, ce sont donc les sanctions. Parce que ce week-end, il y en a eu un petit peu pour tous les goûts. Sanctions, on va dire, sportivo-disciplinaires hein, pour le comportement des pilotes en piste. Sanctions techniques aussi. Et encore une fois, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a quand même parfois des problèmes d'incohérence dans les sanctions. Et depuis quelque temps, on nous parle beaucoup aussi de la situation de Pierre Gasly, hein, qui, après avoir pris encore un point de pénalité sur son permis au Mexique, lors de sa joute avec Lance Stroll, en est à 10 points de total sur son permis. Et vous savez que quand un pilote arrive à 12 points, il est exclu du Grand Prix suivant. Et on a fait le bilan, Stéphane, de l'ensemble des 10 points qui en ce moment sont sur le compte de Pierre Gasly.
Ouais, c'est un florilège. On n'a pas l'impression que c'est très sérieux, mais l'accumulation fait que le risque est réel et jusqu'à l'effacement de la plus ancienne de ces sanctions, c'est-à-dire 2 points au Grand Prix d'Espagne l'année prochaine. Voilà. Donc jusqu'au 7e Grand Prix de 2023, ça va être long. Ça veut dire 8 Grands Prix où il va devoir se tenir à carreau pour donc 2 points retirés pour son accrochage avec Stroll en Espagne, 2 autres avec Vettel en Autriche et 1 pour un hors-piste compétitif, les fameux track limits dont vous entendez parler à longueur d'essai de Grand Prix. Et puis là, par contre, là c'était un petit peu plus sévère, un excès de vitesse ou drapeau rouge pour une incompréhension, mais là on peut rien dire, franchement. À Austin, ils ne respectent pas la,
la distance,
la distance de 10 longueurs de voiture derrière la voiture de sécurité.
Donc et là on enlève deux points.
On ne comprend pas, tout à fait. Et puis un point pour avoir mis Stroll hors piste au Mexique. Alors, lui, moi, ce que je trouve un petit peu curieux, c'est qu'il dit, bon, là, je vais me faire coincer, il faut changer le règlement. Et tous les pilotes étaient d'accord. Bon, les autres pilotes respectent ce règlement, essaie de s'y tenir. Pierre Gasly a encore pris 5 secondes de pénalité pour un excès de vitesse dans la voie des stands. Alors ça vient d'une chose très très simple, c'est que l'AlphaTauri est très très difficile à piloter cette année. Il se bat constamment avec
et surpilote.
Et il surpilote, il est à la limite en permanence et parfois au-dessus de la limite. C'est clair, et que pour doubler, il faut aller chercher des dépassements dans des manœuvres un petit peu scabreuses, et ça donne ce que ça donne. Voilà, on peut pas vraiment le blâmer, mais je dirais que je trouve pas ça vraiment justifié. On a parlé, par exemple, là, surtout des track limites, hors piste compétitif. Ah, pour un dépassement de limite.
D'une ligne blanche, quoi.
Voilà. C'est-à-dire qu'on coupe un virage, on va un petit peu plus vite, donc on gagne du temps. C'est un gain de temps. Bon, ben, c'est pas un dépassement.
À ce moment-là, on met une pénalité en temps, mais on n'enlève pas. Enfin, on rajoute pas des points.
Allô Pierre, premier track limite. Ouais. Allô Pierre, deuxième, troisième, quatrième. Et le quatrième, la sanction tombe. Donc là, c'est pas juste un dépassement, c'est quatre. Et on a vu sur certains Grands Prix qu'il y avait des virages qui posaient problème et tous les pilotes s'arrêtaient à trois. Il y en a quelques-uns qui se faisaient avoir sur un autre. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont droit à quelques jokers. Ils les utilisent. Et c'est aussi de ça que ça parle, en fait, de cette façon dont les pilotes ont d'essayer de gérer des sanctions. Mais bah, quand ça tombe, il n'y a rien à dire. Tsunoda a pris 10 places de pénalité sur la grille à Monza, puisqu'il avait écopé d'une cinquième réprimande dans la même saison au Grand Prix précédent. Point. Voilà. Donc ça doit tomber un moment. Et si Pierre Gasly doit être le premier sanctionné, bah, je veux dire, on le regrettera, mais ça sera une forme de logique.
Ouais, ce que tu veux dire, c'est que la règle, c'est la règle qu'il faut l'accepter.
Oui.
Moi, je me permets quand même de faire remarquer que le principe, c'est donc que vous prenez des points de pénalité quand vous faites donc une infraction, si vous êtes jugé responsable d'un accrochage, si vous donc sortez des limites de la piste trop souvent. Déjà, pour moi, il n'y a pas suffisamment de gradation entre les erreurs qui mettent en danger les autres pilotes ou les mécaniciens. Un excès de vitesse dans la voie des stands, pour moi, c'est plus dangereux que de sortir des limites de la piste. Si vous sortez des limites de la piste mais que vous mettez personne en danger, ben, on vous met une pénalité en temps et ça s'arrête là. Il y a déjà cette première chose. Ensuite, cette règle, elle prévoit que vous récupérez les points. En tout cas, qu'on efface les points de pénalité qu'on vous a mis un an après la date du forfait. Mais si on rajoute des grands prix entre temps, à chaque saison, on rajoute des grands prix, bah, ça fait plus d'occasions de perdre des points. Donc c'est de plus en plus compliqué. C'est comme si on vous disait, nous on a 12 points sur notre permis, bah, sur 3 ans. Bah oui, mais maintenant c'est sur 5 ans qu'il faut plus faire d'erreur. Bah, il va y avoir encore plus de gens qui vont se faire sauter le permis. Donc là, il y a quand même une réflexion à mettre en place, et je crois que les pilotes sont plutôt d'accord, sur le fait de 1. essayer de mieux graduer entre fautes qui entraîne un problème de sécurité pour les adversaires ou pour soi-même, et ensuite effectivement un problème simplement sportif de temps gagné en piste.
Sachant que les 3 points dont a hérité Stroll dans la course au sprint étaient amplement mérités. Là, on est à la limite de l'attentat. Franchement,
mais
c'est
oui.
Irresponsable.
Et je suis d'accord avec toi.
T'as vu les commissaires de piste qui sont pas très loin non plus.
Oui.
Il envoie Vettel dans le décor avec les commissaires de piste. Il y a 2 morts.
Mmh.
Voilà. Donc il y a un moment, faut être sérieux.
Et bah oui,
donc
bah
effectivement,
pour ça,
mais
pour
ça vaut alors, plus. Ça alors, vaut beaucoup plus.
Et voilà. Oui, c'est là qu'on parle d'un problème d'incohérence, parce qu'on a parlé des 2 points qui ont été 2 points de pénalité mis sur le permis de Pierre Gasly pour un problème donc d'écart derrière la voiture de sécurité aux États-Unis. C'est 2 points. Stroll, en envoyant Vettel dans le gazon, il prend 3 points. Je suis désolé, c'est pas tout à fait cohérent. Et en plus, on lui met 10 secondes de pénalité à Alain Stroll. Mais 10 secondes de pénalité, c'est ridicule comme sanction. Il faut lui mettre un drapeau noir, point. Et tu prends, oui, en plus, 3 points et drapeau noir, tu rentres au stand, ton Grand Prix est terminé. L'accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, Max Verstappen prend 5 secondes de pénalité, Stroll il prend juste le double. Sauf qu'il y en a un, c'est dans la course. Alors, vous pouvez juger qu'il est responsable ou pas, Max Verstappen, mais en tout cas, c'est dans la course. Il n'y a pas d'attentat. Là, 10 secondes de pénalité pour, l'attentat de Stroll sur Vettel. Honnêtement, il n'y a pas d'échelle de sanctions proportionnée. Et cette... Moi, c'est ce que je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane. Il y a quand même un truc qui ne va pas tout à fait. Alors, on voulait revenir aussi sur la pénalité.
Pour moi, ces 5 secondes, c'est assez logique. Je dirais que ce n'est pas un incident de course. Alors, Lewis Hamilton l'a dit parce que lui, il voit ça de son propre volant, on va dire. Mais je te renvoie à 4 ans plus tôt, à Sao Paulo, dans les derniers tours. Verstappen-Ocon. Les deux images sont extrêmement comparables, même sur la vidéo, hein. Franchement, oui. C'est la même phase.
Alors,
c'est la même
phase. Pour tout vous dire, si vous écoutez le podcast, évidemment, par définition, vous ne voyez pas les images. Mais nous, on fait des vidéos aussi et on vous propose là les deux photos de l'accrochage. Donc, d'il y a 4 ans, entre Max Verstappen et Esteban Ocon, qui s'était un petit peu poursuivi ensuite dans les garages de la FIA, et l'image de l'accrochage donc de ce Grand Prix de Sao Paulo entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. C'est un copier-coller, vraiment.
Oui, tout à fait.
Voilà. Sauf que on a inversé les rôles.
Exactement, parce qu'il y a 4 ans, Verstappen est à l'extérieur et c'est Ocon qui tente de s'infiltrer à l'intérieur pour se dédoubler. Et puis cette année, c'est Verstappen qui tente de forcer le passage pour moi à l'intérieur. Alors pour juger encore cette phase de course, je dirais que c'est toujours la même chose. Il y a deux ou trois points à regarder précisément qui sont invariables. C'est au point de corde, vraiment, ou en allant vers le point de corde, à la tout proche du point de corde, qui est en tête, qui est devant. C'est tout. Il y a pas. Et là, les voitures, Verstappen n'est jamais devant, jamais. La preuve, c'est que quand il s'accroche, il a une roue, sa roue est clairement derrière. Il est au niveau du ponton. Point. Mmh. Deuxièmement, vous regardez quelle est la trajectoire normale, je dirais, quand les pilotes passent tout seuls. Eh bien, c'est Lewis Hamilton qui est sur la trajectoire normale. Et c'est Verstappen qui essaie de forcer le passage, tout simplement de passer en force. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 4 ans quand même, Verstappen parle ainsi d'Ocon. Il dit les choses très simplement. Ocon écope de 10 secondes de pénalité et il dit les commissaires lui ont donné une pénalité pour avoir causé cette collision et je pense que ça en dit suffisamment long en voulant dire il est responsable, il a été sanctionné, point. Et 4 ans plus tard, c'est logique, c'est cohérent, c'est lui qui est à l'intérieur, c'est lui qui force le passage, c'est lui qui est sanctionné. 5 ou 10 secondes après, c'est à voir. Peut-être 10 secondes parce que Ocon était en train de se dédoubler, il n'avait rien à faire là, c'était pas, il ne faisait pas la course, il y avait un tour d'écart entre les deux pilotes, c'était un peu ridicule comme situation, mais je dirais que quand on l'écoute, en fait, Max n'a jamais tort. Voilà, c'est, oui. C'est un petit peu ça en résumé. Et c'est un petit peu regrettable, mais Hamilton lui aussi m'a envoyé un message en disant « t'y reviens pas », tout simplement. Et Verstappen, lui, a fait un petit peu le surpris en disant « je pensais que depuis l'année dernière, on avait mis ça derrière nous. Non, en fait, on ne peut courir contre Lewis Hamilton. » Mais je trouve qu'il a eu raison. Voilà, il l'a payé au prix fort. Il a perdu peut-être une victoire au Brésil. Bon, c'est plus hypothétique qu'il y a 4 ans, mais voilà, c'est ça le fait.
Alors, autre point qu'on voulait aussi...
Alors attends, Gilles, juste une dernière petite chose, parce que pour statuer sur ces cas de figure d'incident, l'IFIA a été très critiquée dans ce genre de situation, et dans le collège des commissaires, tu as un ancien pilote, et puis trois juristes, oui. Je veux dire, des gens qui sont de la Fédération nationale, qui sont censés connaître les textes et les appliquer. C'est surtout ça, ils regardent le règlement et le pilote est là pour juger. C'est Derek Warwick qui était là pour les pilotes. Sauf que pour la première fois de l'année, il y avait un deuxième pilote dans le collège des commissaires, Enrique Bernoldi. Ça me fait dire quand même que la FIA prend conscience de cette complexité à juger les faits de course et essaie de renforcer un petit peu, de muscler, je dirais, son jury. En tous les cas, c'est ce que j'ai vu. Et pour une conclusion logique, là, ils ont été raccord là-dessus, comme il y a 4 ans.
D'accord. Alors, autre question qu'on voulait aussi évoquer, on va revenir aux qualifications, puisqu'à la fin de Q3, George Russell part à la faute. Oui. Il est crédité du 3e temps et il part à la faute. Il provoque le drapeau rouge. La coïncidence fait qu'il se met à pleuvoir et que finalement plus personne ne pourra améliorer. Et donc finalement, indirectement, George Russell tire bénéfice de sa sortie de piste. Et est-ce que c'est juste ça? Pour vous donner un ordre d'idée, en IndyCar, si vous faites ce qu'a fait George Russell, eh ben moi je pensais qu'en fait le meilleur temps était annulé. On a quand même quelques privilèges dans les fous du volant, on va se la raconter un peu, puis on va surtout en profiter pour le remercier. J'ai quand même envoyé un message à Simon Pagenaud pour lui demander comment ça se passait aux États-Unis. Alors c'est non seulement le meilleur temps, c'est les deux meilleurs temps qui sont annulés, et Simon Pagenaud me confirme, il disait, c'est logique parce qu'en fait tu empêches les autres de jouer leur carte, donc c'est une règle qui fait pas débat aux États-Unis. Quand un pilote est responsable de la sortie d'un drapeau rouge dans une séance, ses deux meilleurs temps sont annulés. Là aussi, il faudra peut-être y réfléchir parce que, alors c'est pas du tout dirigé contre George Russell, mais on comprend bien qu'à un moment, il faut quand même faire un tout petit peu attention parce que là, ça a décimé le reste de cette qualification. Alors je pense que les gens de la Formule 1 étaient très contents parce que ça a fait beaucoup de buzz.
Le côté loterie, voilà, toujours voilà. Du succès. Bon, c'était sympathique pour Magnussen, mais c'est pas le reflet d'une valeur sportive.
On est d'accord.
Qui est un petit peu embêtant. On peut tirer à pile ou face ou voilà, jeter les dés pour déterminer l'homme de la pole position. Personnellement, ça m'intéresse pas. Une fois tous les 10 ans, bon, ça passe. Mais c'est vrai que c'est un petit peu troublant cette histoire. Alors il a pas fait exprès.
Non, d'accord. C'est sûr.
Mais ça casse tout. Voilà, ça casse le charme. Et c'est vrai qu'il devrait y avoir une petite sanction derrière ça.
Donc il n'y a pas scandale, mais ça fait partie des petites choses qu'il faudra sans doute réfléchir pendant l'hiver. On va parler en revanche d'un dernier cas. On est un petit peu long là sur ce sujet des sanctions, mais là on peut vous dire qu'on attaque.
Ah mais il y a du dossier de toute
façon.
C'est
sur les sanctions techniques parce que vous êtes censé savoir, vous amateurs de Formule 1, que pour faire l'ensemble de la saison, une équipe n'a le droit que à 3 moteurs, à 3 turbos, à 3 ce qu'on appelle MGUH et MGUK. C'est des éléments...
Récupérateurs d'énergie.
Voilà. 3. Retenez bien ce chiffre 3. Et maintenant, voilà les chiffres. Leclerc, Ferrari, 6 moteurs, 6 turbos, 5 MGUH, 5 MGUK. Sainz, 6 moteurs. On va faire que les moteurs, ça suffit. Alonso, 6 moteurs. Ocon, 6 moteurs. Tsunoda, 6 moteurs. Bottas, 6 moteurs. Magnussen, 6 moteurs.
Bon, tout le monde, 6 moteurs.
Voilà. En gros, deux fois le contingent
autorisé. Ah non, mais
autorisé.
C'est hallucinant. Alors, dans ces colonnes V6, Turbo, MGUH, MGUK, de toute façon, il y a que, je ne vois que des 4, des 5, des 6, et je vois et même un 7.
Un 7 avec
pour
Bottas.
Voilà, qui a utilisé 7 turbos, c'est fascinant. Voilà. Problème de fiabilité, mais pas tant que ça.
7 turbos en 20 voilà. Grands Prix, ça non, fait c'est... un turbo tous les 3 Grands Prix quand même.
Oui, tout à fait. Et alors, moi, c'est ce qui me fait dire qu'on parle des pénalités. Je trouve qu'ils ne sont pas bien assumés par le paddock, par les pilotes, par les écuries. En fait, elles veulent faire sentir qu'on a mis en place une règle pour essayer un petit peu de contenir, de contrôler les comportements. Mais dès qu'il faut sanctionner, là, il n'y a plus personne et on se détourne. Et... là, sur cette question des moteurs, en début de saison, on nous fait un beau discours dans toutes les équipes. On est responsable, on baisse les coûts, on veut utiliser que 3 moteurs. C'est le progrès de la Formule 1. 22 Grands Prix avec 3 moteurs. Voyez un petit peu l'évolution. Et puis, on en arrive à 6, en fait. Et on détourne complètement ces règles-là parce qu'elles ne sont pas assez, dissuasives. Sur ces quotas, quand on dépasse le quota de 3, la première pièce qui est hors quota, donc la quatrième en l'occurrence, là, elle vaut 10 places de pénalité sur la grille, ce qui est quand même une grosse sanction. Ça casse quand même le plan de course. Et les suivantes, si on en prend une cinquième, c'est que 5 places. Donc il faut passer ce cap en fait des 4 moteurs que tout le monde passe en fait, hein,
oui,
à peu près.
Et après, tout le monde l'a passé.
Et après, tout le monde prend le cinquième moteur, etc. C'est presque une petite pénalité comme ça. Alors il y a 5 bons élèves quand même sur l'ensemble du paddock. C'est Vettel, Stroll, Ricciardo, Albon et Latifi qui n'ont pas dépassé une seule fois ces quotas-là en question. Ah,
c'est
les bons
normal,
élèves.
Latifi, il roule moins vite. Voilà. Ça, il a compris, il économise son moteur.
Pourtant, il est souvent dans les rails. Hein, donc, Et on peut vous donner aussi l'état des lieux chez Mercedes et chez Honda pour Red Bull. Et on voit là que chez Mercedes, on a pris un quatrième ensemble moteur aussi. Là, ils sont tous, il y a des quatre partout pour Hamilton et Russell. Et même 5 pour Verstappen et Perez, et ça, ce sont des moteurs de confort. Il ne faut pas dire autre chose. Voilà. Donc, ça veut dire que là, cette règle, elle ne fonctionne pas bien. On avait reçu, à la même époque, l'année dernière, Laurent Rossi, on avait posé le cas de figure, parce que cette règle est détournée, elle n'est pas assez dissuasive, et surtout, elle n'est pas appliquée en course sprint. Sainz a passé un sixième V6 vendredi. Juste avant, voilà, vendredi, avec pénalité de 5 places simplement pour le départ de la course le dimanche, mais il a pu partir à une bonne position, sa position grille normale pour la course sprint et marquer les 7 points de la deuxième place.
C'est voilà. Pas, là, clairement, ce n'est pas logique. Alors après,
par le passé, hein, je note par exemple que Monza 2021, il y a Bottas qui se fait refaire tout son moteur, il part en course sprint, il gagne la course sprint et c'est le lendemain simplement qu'il est pénalisé. Donc, il y a une sorte de jeu aussi à ça. Quand on voit arriver une course sprint en fin de saison, on sait qu'on peut abattre un joker et qu'on ne le payera pas le samedi en course sprint et simplement le dimanche.
Ben, je pense qu'il faut peut-être déjà alourdir les sanctions quand on change un élément. Au lieu de prendre 10 places une fois, puis ensuite 5 places, ben, prendre peut-être 10 places à chaque fois. Et les week-ends des courses sprint, si vous changez le moteur, vous prenez 10 places pour la course sprint et vous prenez 10 places pour le Grand Prix. Et à ce moment-là, on aura peut-être un petit peu moins de jeu et des équipes qui vont aller chercher un petit peu moins dans la performance pour essayer de s'en tenir à ces trois moteurs.
Voilà, parce que là, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que les motoristes, en connaissant ce règlement et en ayant tous ces jokers, en fait, poussent les moteurs dans leur retranchement, les cassent, et vont voir ensuite la FIA pour dire bah, « Nous, on a cassé, on est un petit peu embêté, on a un problème de fiabilité. Bah, il faut refaire des pièces, il faut les redessiner. Ah, ok, d'accord. » Et en fait, sous couvert de fiabilité, ben, on améliore en fait la performance intrinsèque et ça n'arrête pas. Là, ces 6 moteurs en sont clairement la preuve. On en sera à 4, exceptionnellement 5. Je dirais OK. Et puis là, Ferrari spécialement est le spécialiste. Hein. Il n'y a pas là toute catégorie. Clairement, alors Renault, on joue un petit peu à ça aussi. Ils ont eu des incidents. Chez Honda, on en a eu quelques-uns aussi. Mais bon,
mais
Renault,
c'est marrant parce que
Ferrari dépasse les bornes.
Mais c'est marrant parce qu'on n'a pas tout à fait, tu vois, on n'a pas tout à fait la même vision de la chose. Toi, tu dis Ferrari dépasse les bornes. Pour moi, il gère juste une contrainte qui leur est mise par le règlement. Et ça veut dire qu'en fait, c'est le règlement qui est mal fait et qu'il faut revoir. Je ne jette pas du tout la pierre, moi, au constructeur. Hein. C'est plutôt... et d'ailleurs, je ne jette pas la pierre non plus à la FIA sur ce point-là. Je pense qu'ils ont été un petit peu débordés par le fait que leurs sanctions sont pas assez dures et qu'il faut revoir ça. Mais pour moi, les constructeurs, ils essayent d'exploiter le règlement autant qu'ils le peuvent, et quand on leur dit bah, vous changez le moteur, vous avez 5 places de pénalité, bah, ils se disent oui, mais ça, on va les prendre ces 5 places de pénalité parce que c'est moins handicapant qu'avoir un moteur qui part en fumée en course.
Oui, mais alors moi je comprends bien, il y a un règlement technique, il faut jouer avec ça, il y a un règlement sportif, tu tournes aussi autour de ça.
Toi, t'es
à
un
ton
romantique.
Avantage.
Toi, t'es un romantique. Voilà. Toi, tu veux l'esprit, toi.
Et puis surtout, c'est quand t'as un accident, c'est le principe de précaution. Ah, on va changer le moteur parce qu'on ne sait pas bien ce qu'il y a dedans et on va le temps de le vérifier. Et puis alors, on t'explique que oui, effectivement, c'était obligatoire. Et puis 2 ou 3 grands prix plus tard, le moteur est de retour, on dit ah, on a pu le sauver. Bon, d'accord, merci beaucoup, on a compris. Donc, il y a quelque chose aussi qui ne va pas bien parce que. Foncièrement, je trouve ça un détournement, je dirais, de l'esprit du règlement. Et au bout du bout, c'est hypocrite.
En parlant du bout, le prochain Grand Prix, c'est Abu Dhabi. Alors, on va terminer là-dessus. Puisque ça sera la dernière épreuve de la saison, avec quand même... encore quand même quelques enjeux. On évoquait cette deuxième place du championnat qui va se disputer entre Charles Leclerc et Sergio Perez. Alors là, strictement à égalité avant ce dernier Grand Prix de la
saison. La même chose que l'année dernière, mais pour
la deuxième place. Bon, on espère que ça ne va pas se terminer pareil. pas que ce soit Red Bull ou Ferrari ou Mercedes qui gagne, mais que ça se passe un petit peu plus dans la sérénité. Bagarre aussi pour la quatrième place au championnat des constructeurs, même si Alpine, on a parlé du rififi dans chacune des équipes, on aurait pu aussi en parler pour Alpine, mais bon, ils se sont bien rattrapés le dimanche, donc on a laissé passer. Mais...
enfin, moi personnellement, ce sont deux pilotes qui pilotent à la dure. Il y a eu une friction dans le premier tour parce que c'est là où il y a des dangers de partout.
Gagner, ouais.
Ça arrive dans un virage, tu peux pas tout bien contrôler. Fernando essaie un peu de s'infiltrer. Là, le patron, quand il voit ça, il dit, bon, de toute façon, la seule chose à faire, c'est les convoquer pour leur dire, vous ne me refaites pas ça. Mmh. Après, ouais, effectivement...
D'après ce qu'on sait, c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, le lendemain...
Alonso qui casse son aileron, c'est aussi un petit peu bizarre. Voilà. S'il termine 5e et 6e, on dit, bon, il ne faut pas recommencer. Mais là, sauf que ça braye complètement les chances d'Alpine par rapport à McLaren. Bon, retournement de situation. Oui. Mais on va passé, dire que ouais, c'est un petit peu la paire. Mais chez Red Bull... Chez Ferrari, il y a des frustrations. Et puis, Fernando lui dit, bon, encore un Grand Prix avec Alpine.
Ouais. Il est toujours, ça va être beaucoup mieux avec...
Il est toujours dans la mesure. Lui.
Ça va être beaucoup mieux avec Lance Stroll. Demande à Vettel. Bon, bref, on anticipe. Ça, c'est pour la saison prochaine. Mais je pense qu'on va encore s'amuser. Le week-end prochain, déjà, en attendant la saison prochaine. Le week-end prochain, les premiers essais du Grand Prix d'Abu Dhabi, ça sera à 11h, heure française. La qualif, samedi, à 15h. Et le Grand Prix... dimanche à 14h. Tu y seras, Stéphane ?
Écoute, oui. Et puis je pensais même au mardi suivant, où là, ça sera les premiers tests. Ouais. Alonso dans l'Aston Martin, Piastri dans la McLaren, etc.
Gasly dans l'Alpine.
Dans l'Alpine, voilà. Des choses très, très intéressantes.
Des choses intéressantes.
À voir. Donc, c'est pas fini.
Exactement. Je crois qu'on a tout dit, mon cher Stéphane. Je suis en train de passer en revue là tous les éléments. Si, quand même, vous dire que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Ça sera d'autant plus utile que, évidemment, on fera encore un fou du volant une semaine après le Grand Prix d'Abu Dhabi, histoire de faire tous les bilans. Mais après, évidemment, on va se séparer pendant quelques semaines. Et que le jour où on refera un fou du volant, on imagine un peu avant le début de la saison, il faudra bien qu'on vous prévienne. Et si vous vous abonnez, hop, vous serez prévenu.
C'est bien fait. Pragmatique.
Ouais, voilà. C'est la technique du bon côté. Bon, les garçons, on va se quitter là-dessus en remerciant Sébastien Petit qui a patienté pendant qu'on vous disait toutes nos bêtises, en vous donnant rendez-vous pour la semaine prochaine après le Grand Prix d'Abu Dhabi. D'ici là, on coupe le contact.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.